France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Soyez les bienvenus sur France Inter. Nous sommes le lundi 7 juin. Il est 7h tout rond. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un nouveau marathon parlementaire qui débute aujourd'hui et qui pourrait aboutir cet été à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. C'est une promesse présidentielle qui n'a toujours pas vu le jour. Après 2 ans de débat, on voit ça Agnès après les autres titres.
J-2 avant une nouvelle étape du déconfinement. Nous irons au parc Astérix où le train Goût du Rix enchaîne les loopings. Le suicide du leader de Boko Haram au Nigeria, un islamiste qui semait la terreur parmi la population civile. Le grand oral du bac, suite de notre feuilleton. Matteo, Léo, Alexandre et Amine peaufinent leur discours sur l'orientation. Et puis quand M6 recycle les vieilles recettes de TF1, témoin numéro 1 devient appel à témoins.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa Salamé.
La star absolue, la star mondiale Nicolas. On a beaucoup de chance ce matin puisque pour venir nous parler de la nouvelle exposition Unzipped, exposition qui raconte la vie des Rolling Stones depuis sa création et qui ouvrira cette semaine au Stade Vélodrome Orange à Marseille, eh bien on sera avec Mick Jagger à 7h50.
Magnifique, et on se retrouvera à 8h20 Léa pour la révélation du 47e prix du livre Inter. Vous découvrirez le nom du ou de la lauréat dans le journal de 8h. Et tout à l'heure au micro d'Inter, le président du jury, Dany Laferrière, Eva Béton et 2 membres du jury. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Rarement un texte de loi n'aura autant divisé députés et sénateurs. Le projet de loi de bioéthique fait la navette entre les deux chambres depuis août 2019 en raison de la crise sanitaire et de désaccords sur le fond. Le texte aborde des questions fondamentales comme la recherche sur les cellules souches embryonnaires, l'autoconservation des ovocytes, la réforme de la filiation et la levée de l'anonymat pour les donneurs. Mais la mesure phare, c'est bien sûr l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Promesse présidentielle qui n'a donc toujours pas abouti. Débute aujourd'hui un ultime parcours législatif et la droite a bien l'intention de faire entendre sa voix, Karine Bécard. Plus de 1700 amendements ont encore été déposés.
Tout a commencé le 24 août 2019. À partir d'aujourd'hui, c'est donc la 3e fois que les députés vont examiner ce même projet de loi de bioéthique. Trop long, estime le député de la majorité Jean-Louis Touraine. Pour ce professeur de médecine, la France prend du retard depuis bien trop longtemps.
La plupart des pays qui ont légiféré sur le mariage pour tous ont en même temps légiféré sur la PMA pour toutes. Et je me mets à la place de ces femmes qui avaient, mettons, 35 ans au moment où on parlait de ces possibilités de PMA pour toutes et qui maintenant ont 45 ans et se disent que c'est un peu tard pour elles pour procréer.
Alors tous ces débats méritent du temps, voilà ce qu'explique le gouvernement, sauf qu'en réalité les convictions n'ont guère changé. La députée Agir, Agnès Firmin-Le Bodo.
Ceux qui étaient pour il y a 2 ans sont toujours pour maintenant, ceux qui étaient contre il y a 2 ans le sont toujours. Personne n'a évolué sur ce sujet, je ne crois pas.
Et c'est notamment le cas de la droite qui s'est promis de continuer à mener le combat, 3e lecture donc, et l'élu du Doubs, Annie Genevard, ne lâchera pas.
Dans ce texte de loi, la branche masculine de la filiation se résume à un don de gamètes. Or, nous considérons que c'est là une rupture civilisationnelle majeure.
Et la bataille parlementaire n'est pas encore tout à fait finie. Assemblée cette semaine, Sénat à la fin du mois de juin pour une adoption définitive, a priori, en juillet prochain.
Et les opposants à la PMA pour toutes ont prévu de se rassembler ce soir et demain soir à proximité du Palais Bourbon.
Il est 7h04, J-2, Agnès, avant l'étape 3 du déconfinement.
Et à partir de mercredi, donc, le couvre-feu va passer à 23h, les salles de restaurant vont rouvrir en demi-jauge, le télétravail sera assoupli, les règles dans les cantines aussi, et les piscines rouvrent. Et puis les stades pourront accueillir jusqu'à 5000 personnes. Et après 7 mois de fermeture, c'est aussi la rouverture des parcs d'attractions. Delphine Evenou s'est rendue au parc Astérix pour assister aux derniers préparatifs. Reportage.
Ce bruit, les amateurs de sensations fortes le connaissent bien. C'est le train de Goût du Rix qui grimpe à 36 mètres de hauteur avant d'enchaîner les loopings. Ne manque plus que les cris des visiteurs.
C'est un peu le rush. On court un petit peu partout, mais ça fait beaucoup de bien.
Thomas Vallet, responsable maintenance.
On rentre dans une phase de déverminage. Nos attractions sont rentrées en hivernage, en sommeil, avec toute la maintenance qui va avec. Et là, depuis 2 semaines, elles tournent plusieurs heures par jour afin de les roder, de peaufiner les derniers petits réglages. Ça permet aussi aux équipes opérationnelles de pouvoir se former au pilotage des attractions.
Devant le cheval de Troie, un petit groupe écoute attentivement.
On fait l'annonce, on enclenche la passion.
600 saisonniers, formation pour tout le monde, des irréductibles présents à chaque saison aux petits nouveaux comme Charlotte, 22 ans.
J'avais postulé depuis janvier au parc Astérix, donc j'attendais que ça. J'avais même peur qu'au final ça n'ouvre pas du tout pour cet été.
Une ouverture avec mesures sanitaires, Sébastien Retailleau, le directeur général adjoint du parc Astérix.
D'abord réservation, ensuite distanciation, port du masque obligatoire bien sûr et désinfection des mains avant chacune des attractions. Nous pourrions accueillir jusqu'à 20 000 visiteurs. Au début, nous allons probablement en accueillir 10 000 jusqu'à 15 000 et on espère que à partir du 30 juin prochain, il n'y aura plus de jauge.
Avec deux mois de retard, la saison 2021 est prête à être lancée.
Partout à Tix, les voilà. Que la fête commence.
Reportage de Delphine Evenou. La situation sanitaire continue de s'améliorer avec 2527 malades Covid en réanimation, 25 décès à l'hôpital au cours des dernières 24 heures contre 44 il y a une semaine. Près de 28 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin et parmi elles 12 millions ont reçu les deux doses. Et puis l'analyse des tests PCR va changer. À partir de lundi prochain, les laboratoires ne mentionneront plus les variants des tests positifs, mais les mutations. D'un point de vue médical et épidémiologique, il est en effet beaucoup plus pertinent aujourd'hui, Véronique Julia, de se focaliser sur les mutations susceptibles de rendre le virus plus résistant à la vaccination.
Ce virus, c'est comme un arbre. Le tronc, le virus de départ, a fait des branches, comme le variant anglais, puis des sous-branches, des variants anglais modifiés, et ainsi de suite. Et des variants maintenant, des variants de variants aussi, on en a plein, explique un virologue. Dès lors, plus de raison de rechercher le variant anglais ou le sud-africain. Ce qui importe, c'est de rechercher surtout les mutations clés, celles qui présentent un intérêt fonctionnel, car elles sont susceptibles de rendre le virus un peu plus résistant au vaccin et donc plus difficilement contrôlable. À partir du 14 juin, les tests de criblage en laboratoire ne vont donc plus rechercher comme ils le faisaient jusqu'à présent les variants anglais, sud-africains et brésiliens, mais plutôt trois mutations clés, les mutations 484K, 484Q et L452R qu'on peut retrouver ou pas parmi les variants connus et notamment le variant indien. Le criblage sur ces trois mutations, on commence à le faire depuis quelques jours déjà dans certains laboratoires, mais pas encore à 100%. Ce sera chose faite partout dans une semaine, une fois que les labos auront écoulé les anciens kits de criblage et reçu les nouveaux équipements des industriels qui ont dû adapter leurs réactifs en conséquence et les faire homologuer.
Pourquoi les tests PCR vont se concentrer sur les mutations, c'est à lire aussi sur franceinter.fr.
Il est 7h08, la mort du chef historique de Boko Haram.
Aboubakar Shekau a fait sauter sa ceinture d'explosifs pour ne pas avoir à se rendre alors qu'il était assiégé par un groupe islamiste rival, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. En 2009, c'est Aboubakar Shekau qui avait transformé la secte salafiste en un groupe terroriste parmi les plus meurtriers au monde, semant la terreur notamment dans le nord-est du Nigeria. Lisa Fabian.
Silhouette enturbanée, fusil à la main et treillis militaires sur les épaules, Aboubakar Shekau était l'incarnation même de Boko Haram. C'est sous son impulsion que l'organisation prend un tournant radical à partir de 2009. Opérations armées et attentats font des centaines puis des milliers de victimes, principalement dans le nord-est du Nigeria. En avril 2014, plus de 270 jeunes filles sont capturées au sein de leur lycée de Chibok dans l'état de Borno. Ce rapt de masse est revendiqué par Aboubakar Shekau qui promet en riant de les réduire en esclavage. L'indignation est mondiale. L'année suivante, le chef djihadiste prête allégeance à l'État islamique et devient ainsi le chef de la province d'Afrique de l'Ouest du califat. Sauf que ses méthodes sanguinaires déplaisent rapidement à l'État islamique central. Évincé, Aboubakar Shekau reprend la tête d'une faction historique de Boko Haram. Retranché dans la forêt de Sambisa, il s'attaque toujours régulièrement aux civils, alors que la faction rivale, l'ISWAP, tente au contraire de rallier les populations locales et prioritairement les positions de l'armée. Ces divergences ont sans doute poussé les djihadistes affiliés à l'État islamique à intervenir pour mettre un terme au règne de terreur d'Aboubakar Shekau. À Lagos, Lisa Fabian, RFI pour France Inter.
Les attaques djihadistes qui ont fait 160 victimes civiles au Burkina, attaque la plus meurtrière depuis 6 ans dans ce pays. Des hommes armés ont attaqué un village rural au nord-est du Burkina, dans la zone dite des trois frontières avec le Mali et le Niger. Retour en France avec la suite de notre feuilleton consacré au grand oral du bac, nouvelle épreuve qui se déroulera entre le 21 juin et le 2 juillet. Chaque semaine jusqu'à l'épreuve, donc France Inter suit les révisions de 4 copains, Mathéo, Léo, Alexandre et Amine, en terminale dans un lycée de Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Au programme aujourd'hui, la 3e partie du grand oral, car après avoir présenté la question qu'ils ont choisie en fonction de leur spécialité, les élèves devront exposer leurs envies pour l'avenir, leurs projets d'orientation. Grand oral épisode 2, et c'est signé Julie Pietri.
Donc voilà, bonjour, je me présente. Enfin, je sais pas. Non, c'est parti, on se présente pas.
Bon. La fin de l'oral.
Hein. C'est vrai.
Parler de soi, ce n'est pas forcément l'étape la plus facile, même si, comme ça, à vue de nez, cette épreuve impressionne peu Mathéo, debout face à ses trois copains.
Dans l'entretien, vont me se montrer souriant, enjoué. À la limite, tenter même une petite blague. Je pense que c'est toujours intéressant de mettre une bonne ambiance dans l'entretien, au risque de faire un bide.
Est-ce que les blagues de Mathéo, en général, elles font un bide ?
Généralement, ça fait un gros bide, oui.
Effectivement, c'est une grosse prise de risque pour lui, mais bon, ça lui fait pas peur.
Le lycéen n'est pas encore sûr de ce qu'il aimerait faire plus tard, mais il devra justifier quand même son choix d'orientation devant les examinateurs en 5 minutes chrono.
Depuis que je suis petit, j'ai beaucoup aimé les mathématiques. La filière réputée pour être la meilleure, celle dans laquelle qui ouvre le plus de portes, la plus intéressante. Et j'ai vraiment pris ce qui pouvait m'ouvrir le plus de portes et ce qui peut être le plus bénéfique à mon avenir.
Alexandre, lui, veut devenir ingénieur en automobile.
Bon, alors j'ai décidé de prendre spécialité maths, physique, chimie en terminale.
Il se reprend et s'en sort au final pas mal du tout.
C'est bien.
Il reste aux 4 lycéens une quinzaine de jours pour peaufiner leur présentation. Et on les retrouvera lundi prochain. Son projet d'avenir à lui, c'est Wimbledon. Alors, exit Roland-Garros. Roger Federer a annoncé hier qu'il ne disputerait pas les huitièmes de finale pour ménager ses genoux pour le gazon anglais. À suivre aujourd'hui, Djokovic face à l'Italien Musetti et Nadal face à l'autre Italien, Sinner. TF1 avait témoin numéro 1, M6 aura appel à témoins. Alors que les deux chaînes sont en train de négocier un mariage, M6 lance ce soir en prime time une émission pour tenter de relancer des affaires non résolues. La nouveauté, un partenariat avec le ministère de l'Intérieur et la chancellerie. Alexandra Akoun.
En France, près de 1000 personnes chaque année disparaissent de façon inexpliquée et plus de 300 affaires criminelles restent non élucidées.
En s'appuyant sur ces chiffres, M6 ressuscite un concept qui a fait les beaux jours de TF1 et de Jacques Pradel dans les années 90. Comme perdu de vue et témoin numéro 1 avant lui, le programme de M6 se veut d'utilité publique. Jean-Marie Goy en est le producteur.
Notre travail, c'est de venir en aide à ces familles qui sont désespérées. L'appel à témoins, si vous voulez, ça va peut-être donner le petit epsilon qui manque pour que les policiers, les gendarmes, la justice arrivent à ses fins. Pour ces familles, c'est un peu l'opération de la dernière chance.
La grande nouveauté, c'est l'association avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice. En plateau, 8 fonctionnaires de police et de gendarmerie seront là pour recueillir les témoignages. Mais aucun appel ne sera diffusé en direct au nom du secret de l'instruction. Au programme de ce premier numéro, 3 cas, dont celui de Gaël Fossé, retrouvé assassiné de 22 coups de couteau en 2017 dans l'Eure.
C'est obligatoire dans un village comme ça. Je mettrai peut-être mes deux mains et mes deux jambes à couper, mais il y a trop de personnes qui se taisent tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui osera faire ce premier pas.
M6 se défend de l'intention, bien sûr, mais connaissant le goût des Français pour les émissions de faits divers, avec ici en plus le sentiment de pouvoir faire la différence, le carton d'audience est quasi assuré.
J'espère qu'il y en a qui ont le courage de parler.
Appel à témoins présenté par Julien Courbet et Nathalie Renoux. Nathalie Renoux qui sera l'invitée de Sonia De Villers tout à l'heure dans l'Instant M sur Inter.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes à Gaza aujourd'hui. Les contraintes d'une reconstruction sous blocus.